Audiolib présente Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu. Tant qu'à faire, c'est moi qui vais vous le lire. À Ménou, mon père. Je voudrais que tu sois là, que tu frappes à la porte et tu me dirais c'est moi. Devine ce que je t'apporte et tu m'apporterais toi. Boris Vian, berceuse pour les ours qui ne sont pas là. Prologue. Dans la maison, deux objets me fascinaient. Tous deux venaient de Lorraine. Le premier était un baromètre en bois sur lequel était sculptée une double cigogne sur un nid géant, surplombant les maisonnettes d'un village typique de l'est de la France. Jusqu'à la fin des années 80, mon père prédisait la météo en tapotant le cadran en verre. J'entends encore le son que cela produisait. C'était un son de soir. Le dernier avant de se souhaiter bonne nuit. Même quand l'équipe de France de football perdait contre l'Allemagne, mon père tapotait le cadran. Le tintement de ses ongles sur le verre se concluait par un « Ah, grand beau !» ou un « Oula, méchante limonade !»« Il va pleuvoir demain !» J'étais trop petit pour voir ce qu'il y avait écrit sur le cadran et du coup, j'imaginais que mon papa était magico-météorologiste. Un peu plus loin, dans la cuisine, trônait un coffret en bois. À peine plus gros qu'une boîte à chaussures. Sur l'étiquette était inscrit « Souvenir ». Mon père en sortait tout un tas de choses qui me paraissaient magiques lorsque j'étais enfant. C'était un peu le sac de Mary Poppins. On y trouvait des bobines de films Super 8, un chalutier or et bleu, des diapositives datant de quand il était plus petit que nous, pendant la guerre. Et un album photo. Élise, sa mère. Son oncle Émile. Sa tante Louise et sa grand-mère. On le voyait également prenant fièrement la pose sur le vélo d'Émile en 1945. Ainsi que son père, arborant croix de guerre et légion d'honneur. À la fin de l'album photo était glissée une enveloppe. Deux lettres de sa mère. Il arrivait qu'il les ouvre. Ça le rendait silencieux. Il semblait se perdre dans un labyrinthe de souvenirs. Il n'en sortait que lorsqu'il les rangeait. Un soir, j'ai fini par lui demander de quoi il s'agissait. Et il en a lu une. Cette lettre, écrite quelques jours avant la mort de sa mère, m'a transpercé. Elle m'a tiré autant qu'elle me glaçait le sang. Cette lettre était la preuve qu'avant l'accident d'amour peut être évitable, elle était bel et bien là, à s'occuper de la fièvre de celui qu'on appelait alors Ménou, mon père. Puis, il y avait la machine à écrire. Une Mercedes Prima noire brillante sur son socle de bois. Mon père voyageait beaucoup et rapportait toujours de très bonnes histoires qu'il racontait avec implication et malice. Même lorsqu'il fut prisonnier un mois en Arabie Saoudite, je voulais être comme lui. Il avait fait escale à Anchorage, en Alaska. S'était engueulé avec des Japonais. Nous avait ramené un Australien qui souriait tout le temps, même en mangeant. À un Corse ultra tendre qui tombait plus souvent que Pierre Richard dans la chèvre, un Israélien avec un nom de col alpin, Isoar, ou encore une Anglaise coiffée comme une chips. Mais sa plus grande histoire commençait par sa traversée de la ligne de démarcation, cachée dans une charrette à foin. Montpellier, Villa Yvette, La Pompignane, le 4 juin 1944. Tu es morte cette nuit. Le jour s'est levé quand même. Mireille ne l'a pas vue et je ne verrai jamais Mireille. Papa n'a pas pris le temps de pleurer. Il faut remplir deux valises et deux cercueils. Le linge que tu as plié, avec l'odeur de ta lessive, le parfum d'un fantôme, le souvenir de tes pas dans un escalier, il craque cet escalier. Moi, non. J'imite papa. Il ferme les valises et les cercueils en fronçant les sourcils. Ses yeux se perdent au loin, mais il fait vite et bien. Mes yeux se perdent au loin et au loin, je ne vois rien d'autre que du rien. Pauvre petit Ménou, tu n'auras plus de maman. C'est la dernière chose que tu m'as dite quand tu étais allongé dans ton lit. Et moi, je pleurais sans m'arrêter. Puis je me suis arrêté. À partir de maintenant, j'ai décidé que je ne pleurerai plus jamais.